RMC, cours numéro 1.
Bienvenue sur cours numéro 1 pour le lancement de ce podcast spécial Wimbledon 2026. Donc première petite carte postale avec l'ouverture du Championships ce lundi sur le gazon déjà abîmé de Wimbledon. Ça c'est l'une des conséquences, l'une des images que j'ai. Il est déjà très abîmé ce gazon parce qu'en fond de cours, les relais au service mettent à mal le beau tapis vert de ce Wimbledon. Mais bon, vous savez qu'entre nous, les journalistes, on a une petite blagounette à savoir que Wimbledon, il est sympa comme tournoi parce que on finit tôt. On finit tôt ? Ben non, on finit pas tôt parce que depuis l'instauration du toit sur le center court et sur le court numéro 1, bien les matchs ils peuvent s'achever jusqu'à 23h local time. Et là, on a eu une journée à rallonge, malgré seulement 3 matchs sur le fameux center court. Eh bien, Novak Djokovic a bouclé son premier tour à 22h21. Donc vous voyez, les journées tranquilles à Wimbledon, ce n'est qu'une légende. On s'attendait finalement à un dé assez tranquille pour les deux grands favoris du haut de tableau, à savoir Jannik Sinner et Novak Djokovic. Eh bien, on a tremblé pour eux. On a tremblé pour eux, surtout pour Jannik Sinner, puisque le tenant du titre a dû batailler pendant 5-7 face à un Momir Kecmanovic super inspiré. Le Serbe a même mené 2-1, et là, on s'est dit, oulala, va falloir plonger dans les archives pour savoir à quand remonter la dernière défaite d'un tenant du titre. C'était Leighton Hewitt qui avait gagné donc en 2022 face à Nalbandian, et l'année suivante, il s'était fait balayé, déchiré par Ivo Karlovic. Donc on avait trouvé la stat, mais heureusement pour lui, Sinner ne s'est pas affolé. Il est parvenu à s'imposer en 5 manches, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3. Alors dans ce match, il y a eu du très mauvais chez Sinner avec un premier set où il a accumulé les fautes directes. Il y a eu une belle réaction d'orgueil. Il y a eu un troisième set vraiment de très très haute qualité avec un tie-break absolument passionnant, remporté 8 points à 6 par Kecmanovic, avec notamment une balle de set sauvée par le Serbe à l'issue d'un échange époustouflant. C'est déjà le plus bel échange de cette journée et peut-être même du tournoi, parce qu'il y avait tout dans cet échange. Il a fini avec une volée haute de revers suivie d'une volée de coup droit alors que Sinner était au tapis et à 2-7 à 1, donc, puisque derrière il a remporté les deux points. Le Serbe commençait vraiment à faire douter les fans de l'Italien, mais je vous l'ai dit, Sinner s'en est sorti avec courage, dans le sang, puisque les caméras ont montré que sa chaussure était rouge, c'est-à-dire qu'il saignait de l'intérieur. Alors, il expliquait après que c'était un ongle qui avait probablement sauté et que c'était plus impressionnant que douloureux, mais il s'est fait peur avec une gamelle qui aurait pu lui coûter cher. C'est vrai que le premier jour, le gazon, il est tout neuf. Il faut savoir que sur le central, aucune partie d'entraînement ne s'est disputée dans les jours précédents. Hein. Aucune. Sur le 1, il y a eu quelques matchs, deux fois 45 minutes, ou même pour les quelques joueurs triés sur le volet, notamment Djokovic et Sinner sur le 1. Mais sur le central, non, pas touche. C'est un sanctuaire, vous le savez. Donc le gazon est glissant. Il faut être très vigilant. Et Sinner a failli laisser beaucoup de plumes dans cette rencontre. On se rend compte qu'il n'avait pas joué depuis son élimination incroyable contre Cerundolo à Paris. Ça remontait quand même à fin mai. Et qu'il a manqué de rythme. Il avait choisi de ne pas jouer de tournoi préparatoire. Et peut-être que ça s'est retourné contre lui. Maintenant, bon, l'essentiel est là. Il est passé. Comme il le disait, hein, je suis vraiment ravi d'avoir mis cette victoire sous la ceinture, mais il sait aussi ce qu'il doit travailler. Comme quoi, l'entraînement, parfois, ça ne suffit pas, même s'il est arrivé très tôt ici à Londres, avec beaucoup de séances d'entraînement sur les cours d'Arangi Park. Mais voilà, il s'est fait peur. Il y avait aussi le stress d'ouvrir le tournoi. Les nerfs ont joué un rôle très important dans la prestation de l'Italien. Mais bon, je vous rappelle, il est toujours en vie, et donc ça c'est l'essentiel, et il pourra juger de ses progrès dans 2 jours, mercredi, puisqu'il jouera le portugais Nuno Borges, qui a sorti un qualifié américain, Tristan Boyer. Mais bon, 5-7 pour débuter, c'est pas l'idéal hein, pour un garçon comme Sinner. On était habitué depuis le mois de mars à le voir exploser ses adversaires, mais comme quoi, peut-être que la mésaventure de Roland-Garros a laissé des traces dans le mental de Jannik Sinner. À noter aussi qu'il ne faisait pas très chaud aujourd'hui, donc ça c'était un point important pour Sinner. Il n'y a pas eu de risque d'insolation, mais bon, il est passé, c'est l'essentiel. Et puis, puisque quand on a découvert le tirage au sort, on s'est tous projetés sur une demi-finale Djokovic-Sinner le vendredi 10 juillet. Bah écoutez, Djokovic lui aussi a été chahuté par un Chinois qui frappe dans tous les sens, qui a sûrement disputé l'un des plus beaux matchs de sa carrière. Je veux parler de Yibing Wu, 99e mondial, mais il a aligné des coups gagnants, il frappait comme un sourd. J'ai rarement vu Djokovic aussi ballotté, obligé de glisser pour remettre des coups assez improbables en défense. Mais là aussi, Djokovic a imposé son expérience, sa grinta, victoire en 4-7, 6-4, 5-7, 6-4, 6-4. Mais à la pendule, il avait quand même 3h12 de jeu. Il a laissé beaucoup de gomme, Novak Djokovic. On l'a vu aussi se manipuler le dos. Il y a sans doute des douleurs. Lui aussi n'avait pas joué depuis sa défaite contre Fonseca fin mai à Roland-Garros. Une petite exhibition à Hurlingham il y a quelques jours. Mais comme quoi, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. D'accord, mais il faut quand même jouer des rencontres officielles pour éviter les mésaventures. Mais bon, Djokovic donc s'impose avec un public qui a vraiment pris beaucoup de plaisir en scandant souvent des ouh, parce que bon là c'était rigolo et ça n'a pas dû faire plaisir à Novak Djokovic cette manifestation, mais bon, il a su éteindre le public de Wimbledon qui aurait bien pris un cinquième set. Alors là, s'il y avait eu un cinquième set, je ne suis pas sûr que on aurait pu le disputer, puisque vous savez qu'ici il y a un couvre-feu à 23h, ils ferment tout, et même si on a les lumières et le toit, ils auraient pu interrompre le match s'il y avait eu un cinquième set. Donc Djokovic et Sinner qualifiés, et quand on regarde le tableau, on se rend compte que Novak Djokovic aura un deuxième tour de prestige, entre guillemets, contre Stefanos Tsitsipas. C'était une affiche de finale de Grand Chelem il y a quelques années à Roland-Garros. Tsitsipas qui, on le sait, a chuté au classement. Il est plutôt plus près du top 100 que du top 50. Il a battu en 3 petits sets Hugo Gaston. Il a fait aussi l'actualité puisqu'il a évoqué auprès d'une consoeur grecque qu'il n'était plus avec son père. Son père n'est plus son coach et qu'il a, et cette fois-ci, ça semble définitif. Le divorce est consommé. Il avait besoin d'air frais. En plus, il y a eu des déclarations de Badoza, son ancienne compagne, qui le décrivait comme quelqu'un de toxique. Donc, il avait besoin d'air pur, d'air frais. Et visiblement, ça lui a réussi, puisque donc sur un petit court annexe, il a nettement dominé le gaucher toulousain. Donc, Djokovic y passe. Je pense que ce sera une affiche du central de mercredi prochain. Donc ça, c'est les deux favoris donc du haut de tableau qui sont passés sans trop de problèmes. Mais il y a eu quand même des surprises, puisqu'on note quand même, on recense 4 têtes de série au tapis. Alors Casper Ruud sorti par Hurkacz, franchement, c'est pas vraiment une surprise. Bon, on connaît l'aversion du Norvégien pour le gazon londonien. Il a été éliminé, et puis je pense que, bon, a vu son sourire sur la poignée de main, ça va pas l'empêcher de dormir. En plus, il vient de convoler en noces avec son épouse, il s'est marié il y a pas longtemps. Bon, il a d'autres chats à fouetter, il y a le bébé. Le gazon, c'est pas son truc, on le retrouvera sur le ciment nord-américain, à moins qu'il décide de jouer des tournois sur terre battue, j'ai pas les listes en tête. Trois autres surprises, alors André Rublev sorti par Safiulin, ça c'est une nouvelle déception pour le russe, pour tête de série 12. En plus, il a raté 2 balles de match avant de s'incliner donc au super time break qui se dispute en 10 points, vous le savez. Hein. Désormais, Wimbledon s'est aligné sur les autres grands chelems. Autre surprise, Darderi, battu donc dès son entrée en lice, l'Italien, qui a été sorti par Ethan Quinn, qui vient de faire une finale à Majorque, donc c'est pas vraiment une surprise. Et puis là, c'est un nouveau coup dur pour les Anglais, puisque quelques heures après l'annonce du forfait de Jack Draper, Cameron Norrie, tête de série 26 ici, a été éliminé lui aussi au super tie-break. Ça fait beaucoup de dégâts quand même pour une première journée, mais on retrouve quand même des spécialistes au deuxième tour, et notamment on salue la performance de Alejandro Davidovich Fokina, qui a confirmé son succès, son premier succès en ATP 250 il y a quelques jours à Majorque. Il a tranquillement écarté Juan Manuel Cerúndolo, Davidovic, donc, il est sur une bonne série. Et on va voir ce que ça va donner le prochain tour contre le Hongrois Marochan. Et puis, parmi les autres favoris de ce haut de tableau, Félix Auger-Aliassime, qui est tête de série 3. Hein, c'est la première fois qu'il est aussi haut dans un tableau. Donc, il a normalement, pas un boulevard, mais il a un tableau quand même assez privilégié pour essayer d'aller le plus loin possible. Félix Auger-Aliassime, vainqueur facile de Shevchenko. Qualif aussi de Daniil Medvedev, qui a écrasé Marin Cilic 6-1, 6-2, 6-4. Il aime le gazon, le russe, faudra le suivre de près. Ça peut être un potentiel adversaire en quart de Yannick Sinner. Voilà, côté français, on craignait un peu cette première journée. Et finalement, c'était conforme à la logique. Un seul sourire, celui d'Arthur Rinderknecht, qui s'est imposé en 4-7 compliqué face à un qualifié anglais, Oliver Tarvet. Victoire en 4, 7-6, 7-6, 4-6, 7-5. Je propose d'écouter un petit bout de la conférence de presse du Breton, qui n'était pas mécontent de s'en être sorti parce qu'il s'est fait peur. Heureusement, il a très bien servi, 33 aces, mais c'est vrai qu'en retour de service, il n'a pas été assez efficace et ça aurait pu lui jouer des tours. Écoutons donc Arthur Rinderknecht.
Bah, celui-là, c'était quand même un match accroché, évidemment. De par sa performance, le mec qui joue très très bien sur le gazon. C'est un athlète de dingue, il est capable de ramener des balles, il rate très peu. Ouais, il a une attitude géniale d'un mec qui sort des US. Tout ce que j'aime, donc c'était cool et il fallait être là et se battre du premier au dernier point parce que sinon je passais la casserole, c'est sûr. C'était un bon match au service, ouais, c'était un bon match au service de ma part. Tout n'était pas parfait en retour. Après, il était très bon derrière son service, sur son service plus sain, il était très très performant. Il ratait pas grand chose, donc si je faisais pas vraiment un retour de très très bonne qualité, je cavalais ou j'étais tout de suite derrière, donc. Il fallait très bien retourner. J'ai pas forcément très bien retourné, j'ai retourné, mais voilà, Luc aussi a crédit à lui, où j'ai réussi à le briquer sur le dernier jeu, au bout de je sais pas combien de temps on a joué, mais 3h30 peut-être, 4h06, donc voilà. Ouais, je l'ai briqué au bout de 4h, donc j'ai attendu.
Alors au prochain tour, Arthur Rinderknecht affrontera un autre gros serveur, Martin Damm, un Américain. Là il y aura danger, parce que c'est un garçon qui à mon avis peut faire de gros ravages sur gazon, cet Américain. Quant aux autres Français, ben malheureusement, Hugo Gaston, bonjour, là, je vous en ai parlé il y a quelques minutes, n'a pas pu résister à Stefanos Tsitsipas. Alexandre Muller, qui s'était blessé à Roland-Garros, bon, il n'était pas totalement rétabli, il a totalement explosé contre Tommy Paul. Va falloir qu'il retrouve la forme assez vite, parce que là, il est en train de chuter. Il est plus top 100. Hein. Je pense même qu'il pensait pas jouer Wimbledon, mais il y a eu tellement de forfaits qu'il est rentré directement. Et puis l'autre défaite, et malheureusement c'est un abandon, c'est Luca Van Hache, qui s'est bloqué le dos assez vite, malheureusement, alors qu'il était programmé dès 11h sur un court annexe. Luca Van Hache, qui vient pourtant de gagner un tournoi sur terre battue, donc un challenger, donc qui était vraiment au pic de sa forme. Et malheureusement, il a été donc stoppé très vite. À 6-3, 4-0, il a acheté l'éponge face à Marton Fucsovics. Va falloir se soigner et repartir sur terre battue très vite pour Luca, en espérant que ce ne soit qu'une péripétie. Mais c'est vrai qu'un dos bloqué, c'est toujours embêtant. C'est aussi peut-être les pièges d'un tournoi sur gazon, surtout quand tu as très peu d'entraînement derrière toi. Bon, bah, il va falloir se remettre au boulot. Donc, 3 défaites, 1 victoire. Bon, demain, il y a un gros contingent de Français, puisqu'ils sont tous quasiment dans le bas de tableau. On est sûr d'avoir un nouveau bleu au deuxième tour, parce qu'il y aura un derby entre Manarino et Droguet. Mais évidemment, on suivra nos deux mousquetaires, entre guillemets, Arthur Fils et Hugo Humbert. Les échos sont très favorables, hein, concernant Arthur Fils, qui a joué 2 exhibitions la semaine dernière. Il se sent plutôt bien, c'est ce que nous a confié son agent Philippe Weiss. Hugo Humbert, lui, a joué un drôle de match, vous le savez, contre Zizou Berks, puisque Zizou Berks l'a battu en finale de Eastbourne, finale qui s'est jouée sur 2 jours, samedi et dimanche. Donc il va falloir prendre une revanche, tirer les leçons de la défaite d'Eastbourne. Mais c'est pas un match facile pour Hugo Humbert, qui était de série numéro 27 ici. On suivra aussi Terence Atman face à Frances Tiafoe. Terence Atman, qui n'a plus de coach, puisque Guillaume Père a décidé de quitter le navire. Et si vous êtes abonné à La Voix du Nord, vous pourrez lire son interview apparemment C'est assez sévère ce qu'il raconte. Donc Terence Hampton qui se retrouve tout seul ici à Wimbledon. On passe au tableau féminin. Alors là, on va commencer par les favorites. Alors là, les favorites, elles ont déroulé. Zabalenka, qui jouait sur le central, n'a pas laissé l'ombre d'une chance à une jeune Serbe, Teodora Kostovic, 6-2-6-3, beaucoup d'aisance chez la Biélorusse. Les trois autres têtes de série majeures de cette partie de tableau se sont également qualifiées, Mira Andreeva, Jessica Pegula et Coco Gauff. Deux sorties de route, mais totalement opposées, hein, puisque la première, c'est Chwalinska, la Polonaise, donc, qui a eu une wildcard, puisqu'on se souvient de son... à Roland-Garros, donc finale, mais... Le problème, c'est que le cut de Wimbledon était déjà fait, elle était hors cut. Et elle a été donc récompensée par les members de Wimbledon avec une wildcard. Et malheureusement, elle a pas eu de chance, puisqu'elle a mené assez facilement contre une Taïwanaise sortie des qualifs, celle qui avait battu Océane Dodin. Et puis, elle mauvaise glissade, alors qu'elle mène 6-2, 5-2, je crois, sur balle de match, mauvaise glissade. Des soins, mais elle n'est plus tout à fait la même et finalement elle s'incline dans 3-7. Et l'autre défection, et là ça fait pleurer les Anglais, c'est Emma Raducanu, mais vous le saviez peut-être, elle avait déclaré forfait dès dimanche soir, victime d'une fracture de fatigue au niveau du pied ou de la jambe. Elle était programmée pourtant sur le court numéro 1. Évidemment, les Anglais ont dû changer la programmation, mais c'est un coup dur évidemment pour Emma Raducanu qui venait de faire une finale au Queens. Après un virus au printemps, elle ne s'en sort pas, c'est vraiment. Dommage pour Emma Raducanu. Chez les Françaises, plus précisément, il y avait deux bleus en course. Elsa Jacquemot, malheureusement, a été éliminée par Naomi Osaka. Naomi Osaka qui s'est présentée en kimono sur le court. C'était assez curieux. Elsa Jacquemot, devant les micros, n'a pas voulu trop en dire, mais bon, elle n'est pas totalement fan de la fashion week de la japonaise. Mais c'est une défaite embêtante parce qu'elle a beaucoup de points à défendre, Elsa Jacquemot. Et d'après ce qu'on a compris, et même si elle n'était pas sûre d'elle, elle devrait jouer la semaine prochaine à Contrexéville, à moins qu'elle aille loin en double avec Diane Paris. Mais si ça ne va pas trop loin en double, il faudra qu'elle aille chercher des points à Contrexéville parce que sinon, le cut de l'US Open va lui filer sous le nez. Et comme elle était finaliste l'an passé dans les Vosges, elle a tout intérêt à s'aligner la semaine prochaine à Contrexéville. J'évoquais Diane Paris. Eh bien, Diane Paris, c'est le petit rayon de soleil puisque elle confirme son aisance sur herbe. Elle a battu en 2-7 Francesca Jones, qui avait reçu. Non, qui n'a pas eu de wildcard. Elle était dans le cut. Victoire en deux manches et surtout, elle a su finir avant la nuit puisqu'il commençait à faire tard sur le court 3 où elle avait été reprogrammée. Non, ça se confirme. Diane Paris sur herbe, c'est un régal. On sait qu'elle a un slice absolument extraordinaire, ce côté revers, et ça peut l'emmener loin, même si au prochain tour, elle va jouer Anna Kalinskaya, tête de série numéro 19. Mais Kalinskaya, elle n'aime pas quand on lui met des petites balles courtes ou des petites balles slicées, donc ça va être un match très intéressant mercredi pour Diane Paris. Diane Paris, on va l'écouter sur un autre sujet, et vous allez évidemment comprendre la passe décisive. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de la présence de Serena Williams dans ce tableau de Wimbledon. C'est comme si vous y étiez. Bon, alors demain après-midi, vous allez jeter un œil à Serena ou...
J'ai pas regardé à quelle heure elle jouait par contre. Bah, si c'est pas dans l'heure où je m'entraîne, j'irai jeter un coup d'œil, je pense. Mais oui, c'est vrai que c'est intéressant de voir. Je suis assez curieux, j'ai pu l'avoir tapé quelques balles. J'ai pas vraiment vu comment elle bougeait, mais en tout cas, la qualité de frappe, elle est encore là. Donc j'ai hâte de voir ce que ça doit donner en match. Ouais.
Elle bluffe pas.
Elle a pas l'air. Elle a pas l'air. Puis bon, après, elle s'est quand même beaucoup entraînée, je pense, avant de revenir là. À mon avis, elle a pas fait deux semaines et elle a quand même envie de pouvoir donner quelque chose d'intéressant sur le court. Donc, la légende qu'elle est, à mon avis, elle est quand même un minimum prête pour pouvoir faire un match.
Vous avez redouté le tirage au sort parce qu'il y avait Serena ou...
Franchement, j'étais contente de ne pas me la prendre quand même, mine de rien. C'est jamais des matchs simples à jouer, donc en plus on ne sait vraiment pas quoi s'attendre, donc je suis contente de le voir en tant que spectatrice.
Vous le sentez bien, hein, et je pense que c'est un avis unanime. Il y a une énorme curiosité quant au niveau de jeu de Serena Williams. Je rappelle qu'elle a 44 ans. Personne ne sait où elle en est sur le plan physique parce qu'on l'a vu juste en double sur deux rencontres au Queens et à Berlin, mais comme Diane Paris le dit, ça fait longtemps qu'elle s'entraîne, ça se sent. Et je vous avoue qu'il y a aussi une part de mystère, parce que j'ai essayé d'assister à l'entraînement de Serena Williams. Bon, j'avais des petites contraintes, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'elle cultive une sorte de mystère. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'elle était programmée sur le court numéro 10 à Aarangi Park. Donc, Aarangi Park, c'est le centre d'entraînement de Wimbledon. Et c'est un centre d'entraînement qui est ouvert au public. C'est-à-dire qu'il y a une queue ici pour assister aux entraînements. Ouais. Bah, les Anglais adorent les queues, on le sait. Hein. Il y a un parc à 300 mètres où les gens plantent la tente pour récupérer des tickets vers 6-7 heures du matin. Et donc, il y a possibilité d'attendre, de prendre une sorte de ticket et de même de s'installer sur des bancs au bord du cours numéro 2, sur les cours d'entraînement d'Aarangi. Hein. Vous avez droit à un quart d'heure. Un quart d'heure, il y a un monsieur qui siffle la fin de la récré, qui vous dit « suivant », et hop, et donc les quinzaines de personnes font demi-tour et laissent la place à d'autres personnes. Ça, c'est la culture de Wimbledon, et je trouve que c'est très bien. Sauf que Serena Williams, elle a des privilèges ici. Il faut savoir qu'il y a un souterrain qui va du central à Aarangi Park. Serena ne prend pas le souterrain, parce que tu as quand même un léger contact avec le public, et elle ne veut pas ça. Elle a pris un chemin détourné, donc, que peu de gens connaissent, pour accéder presque en catimini au cours numéro 10. Et ce cours numéro 10, il est protégé par une sorte de mur. Donc c'est-à-dire que les fans ne peuvent absolument pas voir ce qui se passe sur le cours numéro 10. Parce qu'en plus, elle se met du côté où on ne peut rien voir. Donc il y a vraiment... tout est réfléchi. Mais je pense que ça a été fait en amont avec le réalisateur. Moi, je veux le 10 à chacun de mes entraînements. Donc elle était à midi. Donc elle a fait un échauffement physique avec sa team, je peux vous dire qu'ils étaient nombreux, parce qu'il y a un préparateur physique, il y a les deux coachs, il y a l'agent, il y a la physio, c'est une armada. Bon, ensuite, j'ai dû rentrer à ma cabine, donc je ne peux pas vous dire comment elle s'est entraînée, si c'était avec un sparring ou avec une joueuse, mais je pense plutôt que c'était avec un sparring. Mais en tout cas, il y a la volonté de se cacher, de ne rien montrer. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer donc, ce mardi, en fin d'après-midi, puisque vous avez sans doute vu la programmation. Elle est en troisième rotation sur le central face à une jeune Australienne qui n'a pas dû bondir au moment du tirage au sort. Ouais, ça va être vraiment un grand moment parce que personne ne sait où elle en est. Son dernier match, c'était quand même septembre 2022 contre Alia Tomanovic. À ce moment-là, quand elle perd sur l'Australienne, on se disait tous, ben, on ne la reverra plus jamais sur un court de tennis. Et finalement, donc, l'idée a mûri, je pense, dans les 6 mois précédents. Il y avait déjà un premier indice, on s'en souvient tous, c'est quand elle s'était réinscrite sur la liste antidopage, parce que c'est la loi, hein. Il faut avoir 6 mois de présence sur le programme antidopage pour prétendre disputer des tournois. Donc là, c'était un premier indice. Et puis, dès le mois de mai ou avril, elle a mis les bouchées doubles pour s'entraîner avec un sparring partner. Et il y a eu ces deux tournois au Queens et à Berlin, sachant qu'une fois qu'elle était éliminée en double, on l'avait vu sur les cours d'entraînement. Donc, il y a une vraie préparation, hein, minutieuse, calculée. Maintenant, elle a 44 ans. Et comme le dit, vous l'avez entendu, Diane Paris, je ne l'ai pas vu trop bouger. C'est la grande interrogation. Comment va-t-elle couvrir son terrain ? Aura-t-elle assez de gaz ? On n'est pas inquiet sur sa capacité à servir des ailes, des services gagnants, et surtout être très agressive en retour de service. Maintenant, comment aussi va réagir son adversaire, Maya Joint, hein, qui a chuté au classement WTA, puisque l'an passé, elle avait gagné Eastbourne. Mais depuis le mois de février, elle ne gagne quasiment plus un match. D'après ce qu'on me dit, elle joue un peu blessée, elle est gênée par des douleurs au dos. Ça va être une vraie inconnue, et ça va être en prime time quasiment pour la BBC, puisque c'est un match donc, programmé en troisième rotation, après la rencontre de la tenante du titre, puisque c'est la tradition ici. Là, c'est le Ladies Day, le mardi, donc c'est Iga Świątek, tenante du titre, qui ouvre le programme ce mardi. Ensuite, il y aura un match masculin qui ne sera plus Fritz Draper, oui, puisque je ne vous l'ai pas dit, Draper est forfait. Et ensuite, donc, Serena Williams va pénétrer sur le court. Comment sera-t-elle habillée, enfin, comment va-t-elle évoluer, c'est la grande question. C'est un énorme coup qu'elle a préparé avec les membres du All England Club, parce qu'il y a aussi l'histoire de la wild card. Elle a attendu jusqu'à dimanche pour dire « Ok, j'y vais ». Je pense qu'elle savait qu'elle irait, mais elle a attendu le dernier moment. Le suspense était total et il y a eu un mail qui est tombé dans nos boîtes dimanche soir pour dire « La dernière wildcard est attribuée à Serena Williams ». Donc il y a eu tout un... Ouais, tout a été bien préparé en amont. Elle maîtrise sa com comme personne. Dans sa conf de presse, elle a dit « J'ai longtemps hésité et puis je ne sais même pas si j'ai bien fait » avec un petit sourire derrière. Je pense qu'elle est prête, qu'elle se sent prête. Mais va-t-elle être rattrapée par son âge? Ça, c'est la grande question. Eh bien, la réponse, on l'aura donc mardi en fin d'après-midi ici à Wimbledon. Et quoi qu'il arrive, les télés du monde entier seront braquées sur Serena Williams. La Queen, la Diva, elle se sent incapable de gagner un grand chelem, mais elle se sent capable de gagner encore des matchs à son âge. Et pourquoi pas aller jusqu'à Iga Świątek, puisque quand on a regardé le tableau, on a tous observé qu'un possible Świątek Serena Williams s'était programmé au troisième tour. On n'en est pas encore là. Il faut déjà qu'elle affronte cette petite Australienne. En tout cas, ça fait beaucoup parler ici, évidemment, à Wimbledon. Voilà. Je vous laisse. Bonne nuit. Ciao, ciao. À bientôt.